Un opéra de 1829, mais qui va faire le grand succès d'un certain Gilbert Dupré en 1837 sur la scène parisienne, quand il vient exhiber ce Contrute, Pierre Giraud.
Alors tout à fait, le rôle est créé par Adolphe Nourry, et on le trouve à la bibliothèque de l'opéra, la partition qu'il a utilisée, et qui est d'ailleurs corrigée. Corrigée parce que Nourry, c'était un chanteur, quand il chantait le Contori de Rossini, par exemple, qui aimait bien faire du canto di spalza. Il changeait de registre en faisant un grand intervalle, au moins une quarte. Et ben là, c'est pas l'objectif. L'objectif,
ça va être de faire OK.
Alors, oui, non, là, ça va être l'objectif, ça va être de rester en mécanisme 1, de rester donc en voix de poitrine pour ce Contrute de poitrine. Et bien, on a à la fois une caricature faite sûrement par quelqu'un de l'orchestre et une annotation sur la partition qui nous montre qu'on va pas chanter Arrachon Guy. Ah oui, rester sur le I, c'est très bien pour la voix de tête. D'ailleurs, là, je viens de faire un craquage tout à fait symptomatique. Alors que non, on va chanter. Et Arrachon Guillaume à CFR. Et c'est, Berlioz nous dit aussi justement que le I c'est bien pour la voix de tête, le O c'est beaucoup mieux pour la voix de poitrine. Et Bataille, donc l'élève de Garcia, puisqu'on se raccroche à Garcia,
Charles,
c'est le thème
Bataille,
du jour.
Oui.
Charles Bataille, Charles Delprat nous dit en 70 que chez Bataille, dans la classe de Bataille au conservatoire, on travaille beaucoup sur le port de voix. C'est-à-dire qu'on travaille justement sur cette continuité du geste vocal et pas sur. Ben, l'interruption dans l'intervalle pour pouvoir changer de registre. Il s'agit de rester là et c'est comme ça que Bataille entend éviter le couac dont nous parlait Michel tout à l'heure entre le passage du mécanisme 1 au mécanisme 2 qu'il s'agit soit de camoufler ou d'éviter en restant dans le même mécanisme.
Je me suis posé la question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, de savoir si le succès de Gilbert Dupré dans les années 1830 a été un peu la cause de cet intérêt de l'Institut de France en 1840 pour la voix, jusqu'à appeler donc les scientifiques à, je cite, déterminer par des recherches anatomiques, par des expériences d'acoustique et par des expériences physiologiques, quel est le mécanisme de la production de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères. Y a-t-il un rapport ? Il y a au moins le contexte en commun.
À cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup de livres et de méthodes qui paraissaient, des disputes.
Oui, on les a cités tout à l'heure, oui.
Ah oui, non, mais...
Tout à fait.
Il en paraissait deux ou trois par an. Et c'était absolument... on ne comprenait pas du tout ce que défendaient les uns et les autres. Et je pense que ça fait partie des motivations de l'Institut de décider qu'on allait faire une sorte d'exploration des connaissances sur la voix.
Et quand Garcia-Fils vient en 1840 devant les académiciens, oui. Il vient avec des chanteurs faire une démonstration, ça se passe comment ?
Là, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il est venu avec quelques femmes, quelques hommes, et il dit lui-même, et c'est dans le rapport, il leur a demandé, sur une note donnée, de la chanter à une certaine intensité, et, enfin le plus fort possible par exemple, et de bien prendre le souffle. Et il a mesuré la longueur du souffle en mécanisme 1, c'est-à-dire en poitrine, et en mécanisme 2, en voix de tête. Donc c'est la même fréquence produite donc, avec les cordes vocales, mais selon les deux types de mécanismes. Et après plusieurs essais, il était évident que ça tenait plus longtemps en voix de poitrine parce que l'accolement des bandes ventriculaires, enfin des cordes vocales, est parfait. Et donc, entre l'ouverture et la fermeture, ça s'occlusse bien. Mmh. Alors que dans le deuxième mécanisme, c'est un petit peu moins bien assujetti. Il y a des fuites, un peu de fuite d'air. Et donc, il ne pouvait pas durer aussi longtemps. Donc ça a été absolument contrôlé. Alors, on nous dit qu'il y avait un pendule qui mesurait, un pendule à la seconde, qui mesurait le temps, et que manifestement et statistiquement, il a montré qu'effectivement, il y avait deux façons de produire le son. La même note, au maximum d'intensité, et qu'on n'avait pas que le mécanisme permettait de tenir plus longtemps, moins longtemps, donc c'était pas le même mécanisme. Ça, il l'a montré.
Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il invente plus ou moins un registre qui est celui de fossé de tête, qui vous semble, pour le coup, un terme un peu malheureux parce qu'il crée un certain nombre de malentendus.
Alors, il faudrait pouvoir regarder les livres.
À la radio,
dans la méthode du conservatoire, oui. Les registres sont bout à bout. Oui. C'est-à-dire, il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si, et puis tout d'un coup, il y a un autre registre qui continue, puis après, il y a un autre registre. Garcia était le premier à dire, bah, il y en a un qui va, par exemple, du plus grave jusqu'au La3, et puis le deuxième, il prend moins grave et monte plus haut.
Mais il commence avant le La3, justement.
Il y a un recouvrement, et ça, personne ne l'avait fait avant.
Donc c'est le premier à penser le registre, effectivement, avec tuilage.
C'est ça. Et alors, le problème qui s'est mêlé à ça, c'est que ce registre, le deuxième, qui va plus vers l'aigu, pour un homme, ça s'appelle fossé. Et pour une femme, ça s'appelle tête. Alors, entre les deux, il a mélangé fossé-tête. Et ça donne l'existence à un registre qui n'existe pas. Puisque le plus aigu, c'est tout simplement le deuxième registre, le deuxième mécanisme. Et le plus grave, c'est le premier. Mais les chanteurs qui n'essayaient pas d'égaliser le timbre ou l'intensité, ils avaient vraiment deux voix différentes. Celui qu'on a entendu tout à l'heure jouait avec justement ces changements. Donc il est le premier à avoir bien spécifié que les deux mécanismes qui produisent la hauteur du son ont une partie commune du point de vue de la fréquence. Et que dans sa méthode, il fait travailler le passage de l'un à l'autre sur la même note. Il dit « ça fait un petit hoquet ». Il faut le travailler jusqu'à ce que ce hoquet disparaisse. Et alors, comme évidemment, il y avait l'habitude d'appeler telle partie de la voix fossé ou tête pour la femme, fossé pour l'homme, ça a donné fossé-tête. Mais il s'est rétracté plusieurs fois sur ce terme. C'est le seul petit problème ou le petit bémol de la méthode de Garcia, c'est de ne pas avoir dit il y a le mécanisme 1 et le mécanisme 2, point.
Ce que vous avez apporté ensuite dans les années...
Non, c'est pas qu'on l'a apporté, mais
non,
nous,
mais vous avez éclairci
on,
le...
On a voulu écarter les adjectifs utilisés par les chanteurs parce qu'ils étaient liés à des esthétiques, à des manières de chanter qui faisait sens pour les chanteurs. Mais pour nous, on est au niveau de la production du son, donc c'était un ou deux, avec une partie commune.
Et dans l'introduction de sa grande publication en six volumes, donc Charles Bataille, qui continue et perfectionne encore le laryngoscope avec un système, le problème c'était la lumière. Hein,
Charles Bataille qui était donc un élève.
Hein, qui était un élève, et ce médecin, et donc le problème de Garcia au départ quand il est en Angleterre, c'est qu'il fait deux jours par an assez beau pour qu'on puisse se regarder le fond de la gorge, alors que Bataille va trouver des systèmes pour ça. Et donc en 1863, dans l'introduction, justement, lui demande qu'on abandonne les étymologies de fossé. Que vraiment on se débarrasse de ce problème-là dans l'étude scientifique, même si bien sûr, après, quand on veut parler esthétique, libre à chacun.
Ça, c'est difficile.
Pour le coup, tous les chanteurs des années 1840-1850 n'étaient pas archi sensibles à cette approche physiologique de la voix. Gilbert Dupré, qu'on a cité tout à l'heure, par exemple, était même assez moqueur envers l'invention du laryngoscope.
Oui. On va avoir dans les méthodes de chant petit à petit quelques pages qui vont continuer de montrer quelques écorchés de la face, des choses, avoir une dimension qui est souvent pseudo-scientifique et qui est en fait rarement bien raccrochée à la façon dont on parle de la voix derrière. Voilà, ça continue jusqu'à aujourd'hui très bien à coexister. On peut s'appuyer sur des recherches de plus en plus fines, des techniques d'investigation de plus en plus nombreuses. Et c'est peut-être l'occasion de citer Guy Cornu qui nous a quitté récemment et qui avait diriger un ouvrage faisant un nouveau bilan, là où on a d'autres choses à rajouter au laryngoscope, hein, pour aujourd'hui étudier la voix humaine, mais ça reste difficile. Il faut reconnaître que la recherche se focalise là avec des laboratoires. Donc on a parlé du LAM, il y a aussi évidemment le Gipsa Lab et deux, trois personnes qui travaillent parfois du point de vue anthropologique plutôt. En tout cas, voilà, ce qu'on peut dire, c'est décrire des phénomènes extrêmes, ce qu'on vient de faire, hein, en parlant de changement de mécanisme, en parlant du contrôle de poitrine. On a du mal quand même à rentrer dans la finesse de ce qui se passe artistiquement. Hein. C'est quelque chose d'encore beaucoup qui n'est pas du tout pathologique, qui est très difficile à saisir. Et donc les recherches progressent beaucoup et elles sont encore très très loin de ce dont on aurait besoin pour pouvoir décrire l'art du chant comme étant un corpus, une science exacte, hein, dont il faudrait simplement faire la transposition pour l'expliquer, la transposition didactique pour l'expliquer aux élèves. Non, c'est encore un univers artisanal et donc ce qui justifie que pédagogiquement on s'appuie ou pas en fonction de l'élève, en fonction du professeur, sur ses connaissances. Maintenant, ça ne fait pas de mal de se faire une représentation qui soit un peu plus exacte, un petit peu moins fantasmatique quand même.
Mais non, pas du tout. De même qu'un poète n'a pas besoin de connaître la physiologie du cerveau pour faire des vers, de même, il est inutile de savoir l'anatomie des organes vocaux pour chanter.
Donc ça, c'est Gilbert Dupré dans le texte,
voilà,
hein, c'est ça.
Voilà, Gilbert Dupré.
Alors que Manuel Garcia Fils répond, les timbres font si essentiellement partie du discours, ils sont la condition si vraie d'un sentiment sincère qu'on ne saurait en négliger le choix sans tomber infailliblement dans le faux. Ce sont eux qui révèlent le sentiment intime que les paroles n'expriment pas toujours suffisamment et que parfois même elles tendent à contredire. Et ça, ils sont d'accord là-dessus, puisque Gilbert Dupré nous disait l'intention d'une note, on n'est pas des croque-notes, hein, on doit produire du sens.
On pourrait écouter Rita Goer chanter Le Roi 10 en 1952, puisqu'elle avait elle-même fait l'objet d'un certain nombre d'observations tomographiques de la part de Raoul Husson.
C'est ça, la possibilité à ce moment-là d'étudier toutes les masses de chair dans la gorge, et plus seulement le larynx seulement, permet à Raoul Husson de montrer à partir de quelques exemples dans la troupe de l'Opéra de Paris, en train de chanter différentes voyelles, pas seulement un i qui va permettre de remonter le larynx et de bien le voir au laryngoscope, ça va nous permettre de voir que cette personne qui chante les grands mezzo lyriques, hein, ce qu'on appelait le grand soprano auparavant, donc quand même des rôles avec beaucoup de graves, une voix très ample, eh bien n'utilise pas le mécanisme 1 purement, elle ne change pas, elle réussit à descendre très grave, et ça, ce sont des spécificités individuelles.
Ça peut être de naissance.
Voilà, donc qu'on peut enfin étudier avec un nouvel outil.
De tout côté, j'aperçois dans la plaine les soldats par carnage sous nos murs parvenus.
Après 1854, le laryngoscope, il a été perfectionné par les élèves de Garcia Fils. Il y a la version augmentée de Charles Bataille.
Oui, c'est ce que disent Pierre. Il a été perfectionné puisque il y a eu un meilleur éclairage, c'est ça.
Puis après, on a attendu la stéréoscopie, mais un certain temps pour pouvoir s'adapter aux fréquences très élevées et voir à l'œil nu, ou pouvoir maintenant ralentir la vidéo, bien sûr.
Moi, j'ai encore subi dans mon enfance, enfin dans ma adolescence, on attrape la langue avec
un coton,
un torchon, puis on regardait avec le petit miroir. Aujourd'hui, évidemment, on a d'autres outils.
Je citais tout à l'heure la proposition de l'Institut de France de travailler sur les mécanismes de la voix, y compris des animaux mammifères. Il y avait eu des expérimentations animales à l'époque aussi.
Alors oui, c'est sûr que on avait quand même bien du mal à voir ce qui se passait. Et donc, les exemples, par exemple, de Didet et Pétrequin, dans les années 1830, présentaient des mémoires à l'Académie sur le fait que si je prenais un chien et que je lui cousais la mâchoire sur le poitrail, eh bien, au bout d'une semaine, eh bien, il n'aboyait plus. Alors, qu'est-ce qu'on en déduisait ? Que l'extension qu'on provoquait sur un des plis vocaux, quelque part, empêchait la phonation. Et puis, alors, quand on réparait le chien, ça réparait la voix. Donc, on en était là, hein, d'arracher une patte et de lui dire saute, d'arracher une deuxième patte et de lui dire saute. Évidemment, qu'on faisait sur des animaux pas tout à fait consentants. Alors que Manuel Garcia, lui, se prenait lui-même comme cobaye, n'est-ce pas ? Et essayait de ne pas se blesser.
Oui, les cochons ont beaucoup payé aussi. Hein, pour.
C'est ce genre d'expérimentation.
Oui.
Pauline Viardot, dont nous habitons ce matin la villa pour cet enregistrement, pratiquait le laryngoscope, on sait quelque chose de ça ?
Moi, je n'ai rien lu là-dessus.
Oui.
Elle chantait.
Elle se posait des questions d'agilité de la gorge quand même.
Dans Fidelio, elle chantait avec son frère aux États-Unis, elle chantait. Alors, il faut dire que quand on a, alors je parle sous le contrôle de notre collègue italien, quand on a toute la bibliographie de ce qu'ont écrit les Garcia, père, fils, et puis petite fille, Louise Hérite Viardot avec cette méthode, c'est vrai qu'il y a Louise Hérite Viardot qui va enseigner après en Russie, et bien en fait ça se complète sans se recouper. Hein. Ce que l'un a fait, par exemple, Garcia père publie des vocalises, Garcia fils dit, bon moi je vais pas faire des vocalises, je vais vous expliquer la théorie. Et puis ensuite, Louise Hérite Viardot va sortir des vocalises, pendant que Pauline Viardot, elle, édite du répertoire, le répertoire qu'elle fait travailler à ses élèves avec des annotations précises. Et puis, si vous voulez comprendre les annotations, il faut se référer à d'autres auteurs.
Oui, donc elle se suffisait de l'enseignement de son frère disponible là pour.
Ce qui est fait n'est plus à faire, c'est une œuvre contributive.
Bonjour, Georges Chaminet.
Bonjour.
C'est grâce à vous que nous sommes ici. C'est aussi grâce à vous que cette villa Viardot a été restaurée. Et. C'est grâce à vous que le laryngoscope est ici.
Il sera ici, il va arriver très très bientôt. Bon, tout d'abord, je voulais remercier une fois de plus Métaclassique et ce partenariat maintenant qui dure depuis quelques années.
Depuis la naissance de Métaclassique en 2019.
Voilà, donc avec le Centre Européen de Musique. Et je pense que Pauline, là où elle est, doit être absolument ravie et qu'on ait dédié cette émission à son frère, qu'elle adorait. Elle a eu la chance de pouvoir assister aux grandes commémorations à Londres du centenaire de la naissance de,
en 1905,
de Manuel
donc.
Garcia. Ouais. Absolument. Et Pauline, naturellement, avait une tendresse toute spéciale pour cette maison. Et Bougival a été très vite dans le périple de la famille Garcia, puisqu'ils ont habité avant à côté de l'église dans la Garenne. Et après, donc, à partir de 1873, ils étaient ici avec son mari et naturellement avec l'ami de toujours qui a vécu plus de 40 ans avec eux, Ivan Turgenev. Donc, ce jour est un jour très, très beau pour le Centre européen de musique de dédier cette émission à cette saga Garcia qui a complètement bouleversé l'histoire de la musique et l'histoire du chant, mais qui étaient tous des polymathes. Même Lama Libran, qui malheureusement est décédé très très jeune, mais ils étaient chanteurs, ils étaient pédagogues, ils étaient instrumentistes. C'est le cas de Pauline, nous l'oublions pas. Elle était une pianiste remarquable qui accompagnait son père, les classes de son père à l'âge de 10 ans. Donc elle a vu passer tout ce que l'Europe à l'époque comptait de grands chanteurs, mais également, comme vous le savez, dessinatrice, épistolaire, polyglotte, et celle que j'aime appeler la mère Europe. Et nous avons cette chance inouïe d'avoir récupéré une collection unique qui arrivera et qui sera ici à la Villa Viardot, qui s'appelle la Memorabilia Garcia, où parmi des centaines d'items qui n'ont jamais été vus par personne et qui ont été recueillis pendant plus de 200 ans par la famille Garcia. Et donc, grâce aux héritières d'un côté de Pauline Viardot, Sandra Mambouri, et du côté de Manuel Garcia fils, la seule qui porte encore le nom Garcia, Diana Garcia, qui habite le Canada, et donc qui possède cette collection, et grâce à elle, et cette collection, aujourd'hui, est propriété du Centre européen de musique.
Donc, par jeu de miroir, on va pouvoir voir le larynx de Manuel Garcia.
Absolument.
Le miroir qui a vu son larynx.
C'est le larynx, c'est le larynx original, j'allais dire. C'est le laryngoscope original, donc, de Manuel Garcia, qui a été présenté à l'Académie de Londres, et donc à laquelle il appartenait, comme vous le savez, à la Royal Academy of Sciences.
Oui, parce que donc il avait déménagé entre-temps, hein,
Bon, Pauline aussi, vous savez que oui. Londres, même si Pauline n'aimait pas les Anglais et n'aimait pas beaucoup Londres, mais Londres a été à un moment donné pour la famille Garcia un lieu de fréquentation et de résidence. Je pense que pour Pauline, et là où nous sommes dans une de ses maisons, n'oublions pas que les salons de Pauline ont été certainement le foyer d'une pensée européenne, culturelle européenne, soit rue de Douai à Paris, soit ici à Bougival, soit également à Baden-Baden, quand Louis Viardot et Pauline s'exilent au moment de la prise de pouvoir de Napoléon III et partent donc vivre à Baden-Baden. Et là, également, il y a quelque chose d'absolument étonnant, et c'était la force de cette femme, le charisme de Pauline Viardot. Vous aviez le roi de Prusse dans le même salon avec Liszt, avec naturellement Turgenev et beaucoup d'autres grands esprits, mais vous aviez aussi Bismarck et vous aviez aussi Bakounine dans le même salon. Et avec le fameux orgue Cavaillé-Coll qu'elle avait demandé au facteur Cavaillé-Coll de faire pour son appartement rue de Douai et qui après est parti à Baden-Baden et que aujourd'hui se trouve à l'église de Melun, tout près d'ici.
Pour bien saisir aussi l'ambiance vraiment très artisanale dans laquelle ce laryngoscope est confectionné, grâce à Thomas Cousin, on peut lire sur le site du Centre européen de musique une lettre que Manuel Garcia fils adresse en 1860 à Dr Larrey et qui relate les différentes étapes de l'invention qui se font entre Paris et Londres. Il dit voilà, l'idée de me servir de miroir pour étudier l'intérieur du larynx pendant l'acte du chant m'était venue depuis longtemps et à différentes époques, mais toujours je l'avais repoussée, la croyant impraticable. Ce ne fut qu'en 1854 que, me trouvant en vacances à Paris pendant le mois de septembre, je résolus d'éclaircir mes doutes et de voir ce que mon idée avait de réalisable. J'allais demander à Charrière s'il n'aurait pas un petit miroir qui, attaché à un long manche, pût servir à examiner le gosier. Il me répondit qu'il avait un petit miroir de dentiste qu'il avait envoyé à l'exposition de Londres en 1851 et dont personne n'avait voulu. Je l'achetais, je crois pour 6 francs, bon, j'ignore l'équivalent contemporain, mais muni d'un second miroir de main, je rentrais chez ma sœur, très impatient de commencer mes essais. Je plaçais contre l'alouette le petit miroir à main, je vis le larynx béant et tel qu'il est décrit dans les 3 premières pages du mémoire que vous connaissez.
Absolument, c'est fascinant. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous sommes en présence, véritablement, de ce que je disais tout à l'heure, d'une saga de polymathes. Et la famille Garcia, le père, naturellement, tout à l'heure, on entendait le barbier de Séville, n'oublions pas qu'il a été le premier comte Almaviva et que probablement l'air avec guitare, c'est de sa propre composition et pas celle de Rossini.
Ah oui.
Et il a été l'Othello. Othello est écrit pour Manuel Garcia.
Et d'ailleurs,
et tout à l'heure, on parlait de Pauline Viardot aux États-Unis. Elle n'a jamais chanté aux États-Unis. Pauline Viardot avait 4 ans. Quand elle est partie avec la famille Garcia, invitée par Lorenzo da Ponte, et c'est ça qui est absolument fascinant chez cette femme, c'est qu'elle est sur les genoux de Lorenzo da Ponte à l'âge de 4 ans, et elle finira ses jours au boulevard Saint-Germain à Paris, disant à Stravinsky, qui est en train de commencer la composition du Sacre du printemps, « Vas-y, c'est génial ».
Sans doute la seule à avoir connu les deux.
Absolument. Et puis, ce parcours, pardon, simplement pour dire aussi que Pauline, ne l'oublions pas, va être la dédicataire de pas mal de répertoires du XIXe siècle.
Et c'est d'ailleurs avec un opéra qui a été écrit pour elle que nous allons nous quitter. On avait raconté dans l'épisode vénéré de Métaclassique, en effet, sa relation privilégiée avec Camille Saint-Saëns.
Privilégiée et de telle sorte que Camille Saint-Saëns est déprimée au moment où le directeur de l'Opéra de Paris refuse Samson et Dalila, et elle monte ici
avec
décor
sommes,
et costumes, ouais. Et Samson et Dalila avec ses élèves, et elle fait la surprise, une journée de dimanche comme aujourd'hui, d'offrir à son grand ami Camille Saint-Saëns l'opéra, et c'est là où elle chante Dalila. La seule fois, puisqu'elle ne l'a jamais chanté sur scène, mais naturellement, Dalila, Samson et Dalila, lui est dédié. Tout à l'heure, on parlait de Berlioz, n'oublions pas tout le travail qui a été fait en commun entre Berlioz et Pauline Viardot pour la nouvelle version de l'Orphée et Eurydice de Gluck, qui a été sans doute un des rôles les plus importants de Pauline. Mais là aussi, quand on parle de tessiture, n'oublions pas qu'elle a été Dalila, mais qu'elle a été aussi Norma, qu'elle a été aussi Rosina dans Le Barbier de Séville. Et sa Norma, qu'elle crée pour la première fois à Leipzig, va devenir la source d'une des plus grandes amitiés entre femmes compositrices, donc Clara Schumann et Pauline Viardot.
On va se quitter donc avec la version de Samson et Dalila de Rita Guerre, une version de 1959 repiquée par Hervé David. Il me reste à vous remercier, Jean Cheminet. Merci beaucoup, Michel Castellango.
Merci à vous.
Merci, oui, Pierre Giraud, et merci. Alessandro Patalini. Cité Radio vous donne rendez-vous.
Salut, c'est Guillaume Colomba. Ne manquez pas Tout en auteur, l'émission 100% littéraire de Cité Radio où je reçois de nombreux écrivains et écrivaines locaux et nationaux. Durant 55 minutes, nous parlons avec eux de leur parcours et surtout de leurs actualités afin de vous faire partager l'amour des mots et de vous donner l'envie de découvrir leurs œuvres. À bientôt.
Tout en auteur avec Guillaume Colomba, c'est tous les jeudis et samedis à 19h sur Cité Radio, la positive info.
Déclecticienne, déclecticien, bonjour et en même temps bonsoir, mission 31 de la saison 13. Exotisme, éclectisme, actualité et diversité, tel est notre cahier des charges non officiel. Rencontre avec la flûtiste Amina Mezach, directrice artistique du projet Maracuja, un troisième album Vortex sorti chez Veston Léger, dont nous écoutons déjà les spirales. Un entretien qui s'est effectué la semaine dernière dans le calme d'un appartement parisien du 15e arrondissement. Parmi les autres nouveautés, un autre quartet réuni par le batteur Christophe Marguet, Echoes of Time, chez Melody en sous-sol. Le trio Fur fait un bond sur BMC Records. Après un décollage réussi, le guitariste Gabriel Reicher est déjà sur Mars avec Jazz Family. Le contrebassiste Gary Brunton nous ramène Goutte Noire du Pays de Galles via Juste une trace de la Martinique. L'organiste José Priva nous fait un clin d'œil sur le label Instec Music, inspiration encore plus méridionale pour le pianiste français Fred Sol et le percussionniste brésilien Zé Luiz Nascimento pour leur hommage à un autre percussionniste brésilien, Nana Vasconcelos, Viva Nana. Et pour terminer, un duo formé par le saxophoniste Pierrick Menuo et le pianiste Gaëtan Nico, tout en proximité sur leur propre label Tinker, The Nearness. Eclectic Jazz, une émission diffusée en direct, produite et animée par Nicolas Pomaré. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec le compte @eclecticjazz. Thank you. Rencontre avec Amina Mezache, directrice artistique et flûtiste, compositrice du groupe Maracuja pour la sortie de l'album Vortex, album qui sort ce 26 avril aux éditions Veston Léger et c'est distribué par Inouï Distribution. Troisième album, Amina, après Imaginarium en 2016, Mondo en 2020, Vortex arrive en 2024. Tous les quatre ans, c'est régulier.
C'est pas un fait exprès, hein. C'est la nature qui veut ça.
Un peu plus de 10 ans pour Maracuja. Justement, le titre de ce groupe-là, c'est aussi la nature. Ça renvoie
aux
fruits...
Le fruit de la passion.
Les fruits de la passion, les fruits exotiques qu'on retrouve plus particulièrement en Amérique du Sud.
Oui, c'est le fruit que j'ai rencontré au Brésil lors de mon premier voyage. Le maracuja, qui est délicieux en jus, enfin, c'était mon jus préféré. Et puis, en plus, ça s'appelle fruit de la passion, donc je pense que c'était un nom idéal pour ce groupe et pour le début de ma passion pour cette musique-là, qui est née d'ailleurs avec Hermeto Pasquale à la base.
On va en parler d'Hermeto Pasquale, puisqu'il y a un titre qui fait directement référence à lui, justement. Puisqu'on parle de voyage, c'est un carnet de voyage que cet album Vortex, les influences, les différents pays, plutôt des pays de l'hémisphère sud, des pays chauds au niveau des influences.
Oui, ça, je pense que c'est dû aussi beaucoup à mon histoire personnelle. Parce que j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence en Algérie. J'ai des origines espagnoles de par mon grand-père, alsaciennes aussi. J'ai cette appétence pour le voyage. Et c'est vrai que les pulsations qui viennent d'Afrique et qui sont afro-descendantes me parlent énormément. Et donc... Donc le jazz à la base, et puis après la musique brésilienne qui vient de ce continent-là aussi, voilà. Entre autres.
Du continent africain et par extension aussi l'Amérique du Sud. Vortex, ça signifie les turbulences, les éléments qui sont fusion.
Oui, alors en fait, je pense que c'est les événements des dernières années n'y sont pas pour rien. Hein, les confinements forcés, les rencontres avec soi-même forcées aussi. On fait que je pense que la tournure de ce que j'écris est plus intime, plus personnelle, et aussi a envie de d'envoyer bouler des fois des choses, notamment le fait de vouloir s'inscrire dans un style de musique ou de se mettre dans une case et pas dans une autre. Pour cet album-là, j'ai fait fi de ces préoccupations-là, en tout cas. Et puis, j'avais envie d'évoquer ces turbulences et pas seulement dire, voilà, c'est la fête, la joie. Donc, il y a cet aspect-là aussi.
J'ai le sentiment qu'il y a un titre plus particulièrement qui fait référence justement à ces turbulences intérieures. C'est le deuxième titre de l'album. Bayao, je ne sais pas si je le dis bien.
Ça se dit Bayan, comme Bayan de Baillé.
Bayan, d'intérieur.
Oui.
Celui-là, il exprime vraiment justement ce qui a pu se passer. Il a été écrit pendant le confinement.
Il a été écrit pendant le confinement. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo à l'époque où je jouais avec moi-même dans différents endroits de mon 15 mètres carrés. Donc ça a fait découvrir au public tous les recoins. Et puis, effectivement, oui, c'était une période de solitude, donc d'émerveillement de créatif et aussi des fois de torture mentale qui, heureusement, comme je suis artiste, j'en fais quelque chose, quoi. C'est, l'art, il nous sauve pour ça, et la musique, quoi. Il nous sauve de nos propres démons intérieurs.
Amina Mesache pour l'album Vortex de Maracuja, troisième album, un petit peu plus de 10 ans d'existence. C'est un quartet, on va présenter les musiciens, vous êtes aux compositions et à la flûte, différentes flûtes, on en parlera peut-être de ces différentes flûtes. Vous pouvez nous présenter les trois autres membres du groupe.
Alors à la guitare, il y a Johan Fernandez, qui est mon complice depuis longtemps, avec qui j'ai un duo aussi qui s'appelle Le Bateau Ivre. Au sousaphone et à la flûte, il y a Fabien de Bellefontaine, que je connais depuis des décennies, et qui est un incroyable multi-instrumentiste de quasiment tous les vents. Et aux percussions, Jonathan Edo, que je connais aussi depuis des années, qui est dans Maracuja depuis quasiment le début.
Et la particularité de ce groupe, justement, c'est l'instrumentarium. Ces différents instruments, faire associer de la flûte, voire des flûtes avec une guitare, avec un sousaphone et une percussion, c'est assez original comme formule.
Oui, c'est la volonté d'utiliser le sousaphone à la place de la basse, ça permet aussi d'avoir une grande richesse mélodique. d'interagir et de se mêler avec la flûte, d'avoir des contrepoints. Et par exemple, dans le choro, il y a aussi beaucoup ça, dans les guitares à sept cordes, qui est extrêmement soliste, extrêmement complémentaire de la mélodie, en fait. C'est du contrepoint, et donc le sousaphone fait ça à merveille. Et comme Fabien est aussi flûtiste, ça nous permet d'avoir des morceaux avec vraiment un son très différent, deux flûtes plus percu ou deux flûtes plus percu guitare. Donc ça donne un côté très aérien aussi à certains morceaux du disque.
Et de fait, ce sont des rencontres humaines ou c'est cette composition musicale, les différents instruments qui faisaient que vous vouliez cette couleur dès le début ?
Oui, c'est des rencontres humaines avant tout, oui. Oui, oui, vraiment.
Et qui ont créé un style.
Voilà, exactement. Alors, parce que l'humain, il est. Pour moi, c'est aussi une part de la musique qui se fait en dehors de la musique, à travers l'humain. Ça, c'est vraiment important.
Et par extension, il y a des nouvelles couleurs qui apparaissent aussi dans cet album, qui sont offertes par les invités.
Exactement. Et là aussi, c'est de l'humain. C'est des gens que j'ai rencontrés à travers mes différentes collaborations avec d'autres groupes.
On les cite ?
On les cite. Alors, il y a Edgar Sekloka. Qui a écrit le texte sur Sirocco et qui le rappe, avec qui j'ai travaillé notamment au Tamanoir à Gennevilliers, qui m'avait proposé une collaboration. Il y a Florent Sepcha à l'accordéon, qui vient de Tours, que j'ai rencontré par notre collectif Veston Léger, qui est notre label. Et puis il y a Simon Deslandes à la trompette et au bugle, qui était là aussi pour le deuxième album et qui est aussi une superbe rencontre humaine avec qui je fais aussi d'autres choses avec sa compagnie qui s'appelle Ne dites pas non, vous avez souri. Voilà, des belles âmes.
Un petit mot justement sur ce collectif, sur ce label Veston Léger.
Oui, Veston Léger, c'est un collectif qui existe depuis 2016 et donc c'est un collectif qu'on a monté avec Fabien de Bellefontaine et Jonas Muel. Pour promouvoir nos spectacles, nos groupes, et puis intervenir beaucoup en action culturelle dans la région, notamment de Tours, enfin dans la région autour d'Amboise, le centre Val-de-Loire. Et donc on a la chance d'être soutenu par cette région, on a la chance d'avoir différents partenaires, notamment la Spédidan qui nous aide pour la diffusion des spectacles. Et puis récemment, on a monté le label. Et puis récemment, on a monté un festival aussi cette année de fanfare fanfare et patinoire.
Fanfare et patinoire.
Et patinoire écolo.
Ok.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on patine. Donc si c'est une patinoire écolo, on doit pas patiner sur de la glace.
Exactement. Voilà. On patine sur un parquet en écoutant de la musique live qui groove.
Et ça, on joue en patinant aussi.
Eh ben, on a une fanfare sur roller avec le collectif, donc eux ils patinent et puis ils jouent en même temps.
Ok, je crois bien avoir vu du patinage autour de Hermeto Pasquale, en tout cas il s'en passe aussi des choses aussi autour d'Hermeto Pasquale. Je ne sais pas s'il est venu jouer à Tours, mais en tout cas il vous a touché, peut-être que vous l'avez rencontré, vous avez
forcément.
Vous avez joué avec lui, vous avez travaillé avec lui.
La première année...
Maître Hermeto Pasquale.
Voilà, c'est ça.
Maestro.
Il l'appelle Campion, le champion là-bas. Ouais. Il a 84 ou 85 ans. Et le premier voyage que j'ai fait à Rio, c'était en 2009, je crois. C'était pour le rencontrer, en fait. C'était vraiment ma lubie. Et j'ai rencontré, donc, au début, j'ai rencontré son bassiste qui s'appelle Iti Beres Varg, avec qui on sort un album aussi en février, qui est sorti. Et donc, il m'a fait rencontrer Hermeto Pasquale. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que je l'ai vu en concert à Rio. Et puis, en rentrant à Paris, à l'aéroport, je tombe sur lui par hasard, assis à une table. Il prenait aussi un avion. Et donc...
Et pour ceux qui peuvent connaître, qui savent à quoi ressemble Hermeto Pasquale, tout de suite, on se dit, il ne peut pas y en avoir deux.
Oui, voilà, je n'ai pas pu confondre avec un autre, ça c'est sûr.
Il n'y a pas de confusion possible.
Oui, il ressemble un peu au Père Noël.
C'est ça.
Et donc, ce qui est incroyable, c'est que je me suis assise avec eux, on a discuté, et puis à un moment, il prend un set de table, et puis il se met à écrire une portée, et à écrire un morceau qu'il m'a dédicacé. Il m'a dit, voilà, c'est une valse, comme tu viens de France, j'ai écrit une valse. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspirée, en fait, dans sa musique, c'est que... Il n'y a pas de limite entre musique et non-musique. C'est le son, pour lui, tout est musique. Et donc, à chaque fois qu'il parle de musique, c'est très nourrissant parce que il est sans arrêt en train... C'est comme s'il était en train de composer sans arrêt.
Il faut le voir en concert, effectivement. Tout se fait... Voilà, sous vos yeux, dans vos oreilles, avec des objets du quotidien. Lui, il en fait des instruments de musique.
Voilà, notamment, je me souviens d'une pompe à vélo avec laquelle il avait joué le Xardas. voilà. Oui. Mais en même temps, voilà, on peut se dire, ah, c'est des gadgets et tout, mais en même temps, sa musique est extrêmement exigeante et dense et riche. Donc, c'est pas des gadgets. Quoi.
Moi, je me rappelle d'une bouilloire et ça marche.
Ouais.
On voyage avec Amina Mezach, notamment dans les pays qui sont dans l'hémisphère sud. En tout cas, ce sont ces ambiances qui ont inspiré ce carnet de voyage, on le disait, l'album Vortex. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on voyage dans un pays, on se dit « tiens, là, ça va m'inspirer quelque chose ». On entend des sons, ce sont peut-être des odeurs, des lieux, des rencontres avec des gens, peut-être un petit peu de tout ça, ça dépend.
Oui, alors là, c'est quelque chose qu'on peut pas du tout prévoir. Je sais que je suis sensible, par exemple, aux arbres. Et lors de différents voyages au Burkina, par exemple, les baobabs m'ont beaucoup frappé sur le moment. Il y a aussi beaucoup de manguiers.
D'où le titre « Iriba ».
Yiriba, oui, le grand arbre.
Pour ceux qui écouteront l'album Vortex.
C'est ça, oui, oui. Et je me souviens que vers le crépuscule, il y a plein de, de chauves-souris qui sortent des arbres, qui viennent grignoter les mangues, des grands, grands manguiers. En fait, là-bas, ouais, au Burkina, même en Guinée, en ville, il y a des arbres énormes qui ont des siècles, je pense. Et c'est une puissance dans la ville, on le sent, quoi. Donc, je m'inspire quand même pas mal, ouais, de la nature. Et aussi de la ville, hein, des folies de des métros, des foisonnements, des embouteillages. Je pense qu'il y a... En fait, c'est, le voyage m'inspire, mais finalement, chaque jour, on voyage en prenant le métro, la ligne 12. Il y a de quoi voyager aussi, quoi.
Alors justement, bah, les concerts, il y en aura en prenant le métro, où il y en aura aussi plus proche de la campagne. On va retrouver un petit peu ces deux facettes sur les différents concerts. L'album, le concert de sortie officiel aura lieu le 16 mai.
Exactement, au studio de l'Ermitage.
Au studio de l'Ermitage, c'est dans le 20e arrondissement. Après, on pourra vous retrouver le 22 juin à Aubonne, à la salle de l'Orangerie, le 1er août. Alors là, justement, on sera plus au milieu de la nature, j'imagine, à Vialas. Et Vialas, c'est en Lozère. Et on vous retrouvera également le 3 août prochain au château de Ratilly. C'est à Trény, et Trény, c'est en Yonne. Merci Amina Mezache pour ce voyage. On vous souhaite d'autres grands voyages et on peut vous suivre dans vos pérégrinations et vos aventures musicales sur site internet, j'imagine.
Oui, alors si vous tapez Maracuja Musique sur Google, vous allez tomber dessus, c'est la première occurrence. Et puis voilà, on est présent sur les réseaux. Et voilà, on espère vous voir en live, surtout à un de ces concerts-là ou à d'autres.
Merci beaucoup.
Merci.